Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Bonjour à toutes et à tous. En cette période de vacances scolaires, Cœur de patrimoine reste sur le pont et vous propose de retrouver quelques-unes des interviews les plus marquantes des semaines passées. Alors ce matin, on va commencer par une touche d'immobilier en parlant démembrement ou comment monétiser finalement une nue propriété reçue par exemple en donation ou en héritage. Ensuite, on prendra la direction de Dubaï, pas pour y causer influenceur, mais non, pour y parler immobilier. Et puis enfin, on évoquera la question de la retraite. Là encore, pas pour plancher sur une énième réforme, mais pour vous accompagner à l'étranger. C'est parti pour ce best-of de Cœur de patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on rentre donc dans le vif du sujet avec cette première partie immobilière. On accueille Yigal Nathan, bonjour.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'être au rendez-vous, directeur associé de René Coste. Je le disais en préambule, on va parler démembrement, nue propriété, usufruit. Ce sont des termes que l'on évoque très souvent quand on est en gestion de patrimoine. Mais ça vaut peut-être le coup qu'on repose un petit peu les principes sur le bureau avant de commencer. Est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu ce qu'est finalement une nue propriété, ce qu'est l'usufruit, comment l'un se distingue de l'autre dans ce monde immobilier en tout cas?
Oui, tout à fait. Vous faites bien de le rappeler, la propriété, puisque c'est de ça qu'il s'agit. C'est toujours un faisceau de droit. On a l'impression que c'est un droit monolithique, mais effectivement, la propriété est un faisceau de droit. On en retient en général trois grandes parties. Premièrement, l'abusus, ce qu'on appelle aussi la nue propriété, c'est-à-dire le droit de disposer de la chose, de le détruire, de le vendre. Le usus, le droit d'usage, donc le droit d'utiliser la chose dont on est propriétaire de ce droit. Et puis enfin le fructus, le droit d'en retirer un fruit. Donc effectivement, dans le cadre d'un démembrement de propriété, eh bien on va séparer la nue propriété, l'abusus, de l'usufruit, qui comprennent les droits d'user du bien et en retirer des fruits. C'est effectivement quelque chose qu'on connaît bien dans l'immobilier, mais qu'on connaît encore mieux dans d'autres secteurs, comme par exemple l'automobile, puisque vous savez bien que en une quinzaine d'années, le marché de l'automobile est passé de la propriété au démembrement de propriété, la LOA, la LDD, le leasing automobile. Et donc, alors qu'il y a une vingtaine d'années, on était à 100% en propriété, on est passé sur un marché 90%.
Les mots tout techniques de démembrement, d'usufruit et de nue propriété quand on parle de LOA ou de LDD ou de leasing, effectivement. Quels sont les principaux défis, du coup, qui se posent sur ces biens immobiliers lorsque un épargnant, j'ai envie de dire, même si c'était pas vraiment de l'épargne au départ, mais enfin, lorsqu'un héritier, tiens, est confronté, lorsqu'il reçoit finalement la nue propriété, j'imagine que c'est ça essentiellement qu'on reçoit, dans le cadre, soit d'une donation, soit encore mieux d'un héritage.
Eh ben, vous avez raison. Dans toute gestion active du patrimoine, on peut investir en nue propriété dans un bien, on peut démembrer des titres de SCI, SCPI et puis pour investir, mais dans tout décès, en tout cas quand il y a un couple et un conjoint survivant, le droit français accorde au conjoint survivant l'usufruit à vie pour la maman, le papa qui reste évidemment usufruitier de la résidence, et les enfants, les beaux-enfants, vont hériter de la nue propriété. C'est la même chose, c'est le même démembrement qui se passe quand, sur conseil d'un notaire ou d'un conseiller en gestion de patrimoine, je vais démembrer mes parts de SCI ou une partie de mes biens immobiliers pour en faire la donation à mes enfants. D'accord. Évidemment, c'est toujours une optimisation. Et on se retrouve, dans le cas que vous présentiez il y a quelques instants, avec des héritiers ou des récipiendaires de donations qui se retrouvent avec une nue propriété, donc c'est-à-dire un capital, mais ils ne peuvent ni en jouir, ils n'ont pas l'usus, ni en retirer des fruits, ils ne peuvent pas le mettre en location, ils ne peuvent pas en retirer des
puisque
dividendes,
tout ça reste,
ils n'ont pas le fructus.
Au conjoint survivant,
ouais. Exactement. Et que faire de cette nue propriété? C'est là qu'on peut intervenir.
Et là, c'est la René Coste à gamberger et propose une solution qui peut être intéressante et qu'on va présenter donc ce matin. C'est Hérite Immo. Et la promesse, c'est de monétiser finalement cette nue propriété, c'est ça?
Tout à fait. Alors, René Coste, depuis une centaine d'années, hein, puisque la maison à 1900 est créée en 1921 par Madame René Coste, on est spécialiste du démembrement de propriété, viager, nue propriété, cession bail à vie, vente à terme. Et on avait pour habitude de vendre des nues propriétés à des investisseurs, mais on était souvent à l'origine du démembrement, c'est-à-dire que l'occupant, le propriétaire, conservait la jouissance via usufruit du bien et cédait à un investisseur professionnel ou particulier la nue propriété. Et puis, on s'est retrouvé contacté par des héritiers, des enfants qui avaient reçu des nues propriétés en donation et qui disaient, moi, j'ai ce patrimoine, mais j'ai besoin de le monétiser. J'ai besoin de monétiser ma succession, mon héritage. Est-ce que vous pouvez m'aider ?
Et alors, concrètement, ça marche comment ? Quel est le processus qui part finalement d'un morceau de papier, entre guillemets, qui nous dit, vous êtes, nu propriétaire, super, et de lui faire des petits.
Exactement. J'ai mon titre de propriété, de nu propriétaire du bien. Je l'ai reçu en succession au décès d'un des parents ou en donation. Je vais vendre cette nue propriété à un investisseur particulier ou professionnel. Et je vais transformer ce capital immobilier que je ne peux pas utiliser. Je vais le transformer en liquidité financière puisque je vais être remplacé par un investisseur.
Entre guillemets, la patate chaude, quoi.
On se repasse l'investissement. On a en France des dizaines de milliers d'investisseurs qui sont à la recherche d'investissements en nue propriété. Ça peut être via Reneco, ça peut être via de l'usufruit locatif social que font nos amis de chez Perle ou ailleurs. Donc on a ces investisseurs qui, eux, sont là pour du placement à long terme, qui sont pas pressés, au contraire, qui veulent cet investissement immobilier de capitalisation, sans revenu, mais un investissement immobilier par capitalisation. Et on a ces propriétaires de nue propriété, héritiers, donataires qui ont besoin, eux, de liquidités. Bien, effectivement, on organise cette transaction en toute sécurité, en préservant les droits de l'usufruitier.
Et il y a entre guillemets des... on comprend mieux, on rend le capital liquide, mais il y a d'autres avantages, on va dire, financiers pour un héritier de vendre cette nue propriété.
L'urutier, son avantage, c'est qu'à un moment, il a besoin de liquidité. S'il n'a pas besoin de liquidité, oui, il peut rester investi, à condition que ça soit sa stratégie patrimoniale. C'est des investissements long terme de capitalisation qui ne génèrent pas de revenus. Mais l'intérêt, en fait, quel est le cas d'usage principaux, les cas d'usage principaux de nos clients? Ce sont les gens qui ont besoin eux-mêmes d'acheter une résidence principale. À un moment, ils ont besoin de ce capital initial, sauf que il est bloqué dans cette nue propriété. Ou les gens qui ont des projets professionnels à financer, et effectivement, on leur permet de générer cette liquidité.
On rappelle, c'est pas comme c'est comme un viager, mais c'est pas comme un viager où généralement vous ne connaissez pas la personne pour laquelle vous achetez la nue propriété. Donc bon, y a pas forcément de sentiment qui se crée. Là, généralement, vous êtes en train de nous parler d'héritiers dont un parent survivant est encore présent. Comment ça se passe? Comment notamment le contrat garantit les droits de l'usufruitier? Il pourrait se sentir un peu, abandonné par ses héritiers, non? De les voir partir comme ça en vendant la nue propriété.
C'est une très bonne remarque, Cédric. En fait, dans un cas sur deux, ce sont les usufruitiers qui nous contactent.
D'accord.
En général, la maman, la belle-maman, alors il peut y avoir aussi dans le cas de famille recomposée des situations familiales qui sont conflictuelles, donc là on va venir régler le conflit en donnant son argent à l'héritier. Bien et sûr. En maintenant l'usufruitier dans ses droits, mais en général la maman, c'est elle qui nous contacte en disant je sais que mes enfants, ils ont besoin de cet argent, moi je veux pas partir de chez moi, je veux y rester toute ma vie, donc j'aimerais leur trouver une solution pour qu'ils puissent récupérer l'héritage. L'héritage de leur papa ou l'héritage de leur maman.
Le droit de l'occupant, il est totalement préservé, il n'y a rien qui change.
Il est souvent même renforcé. Alors évidemment, il ne peut pas être dégradé, puisqu'on reprend la convention de démembrement dans l'état où elle avait été faite par le notaire au moment de la succession. D'accord. Ou de la donation. Mais parfois même avec un investisseur professionnel ou avec un investisseur particulier, puisque les choses sont bien plus normées que dans des transactions intrafamiliales, il arrive même que l'usufruitier soit bénéficiaire parce que, par exemple, même si certaines charges ou certains travaux sont à la charge du nu propriétaire, il arrive que la maman ou le papa ne fasse pas payer les enfants. Ouais. Évidemment que, c'est ce que vous disiez, avec un investisseur professionnel que je ne connais pas, la relation...
J'ai pas forcément envie de...
de lui faire de cadeau. Et les choses se font telles qu'elles sont définies dans le contrat.
Est-ce que, avec le retour d'expérience, vous avez, on va dire par un portrait robot, mais le cas ou les deux, trois cas les plus fréquents où cette possibilité est utilisée.
Oui. Alors, j'adore cette question. Quels sont nos usual suspects? C'est ça, votre question. Premièrement, famille recomposée. Donc, en général, quand il y a les enfants d'un premier mariage avec la belle-maman ou le beau-papa, ils n'ont peut-être pas envie, surtout parfois, ils ont le même âge, les enfants du premier mariage, donc ils n'ont pas envie de prolonger cette relation conflictuelle. Donc, à un moment... L'idée, c'est que chacun récupère sa partie de l'héritage sans qu'il y ait plus de relation. Ça, c'est premier usual suspect. Le deuxième, c'est dans le cas de donation. Donc, il arrive souvent sur conseil du notaire ou du CGP que, par anticipation, on donne des biens en démembrement à des enfants jeunes, quand ils ont 12, 13, 15 ans, 18 ans. Il peut arriver que 10, 15 ans après, les enfants, eux, ils ont vraiment besoin.
La situation patrimoniale a changé.
Exactement. Ils auraient besoin de cet argent-là. Les parents continuent à louer ce patrimoine qu'ils avaient donné en démembrement. Ils ont besoin encore en complément de retraite des loyers. Donc, ils conservent les loyers, mais on leur apporte une solution pour que gratifier de liquidités financières d'un capital leurs enfants.
Juste dernière question, Igal Nathan. C'est tout ou rien? Parce qu'on pourrait imaginer un cas un peu particulier d'une famille avec effectivement un des deux parents survivants, une nue propriété qui a été divisée entre plusieurs enfants, et seul peut-être un des enfants a besoin de liquidité, pas les autres. C'est soit on fait toute la nue propriété, ou on peut là aussi la découper et finalement associer un détenteur de nue propriété. Enfin voilà, je me fais un peu l'avocat du diable, mais...
Techniquement, rien n'interdit.
Ouais, mais en fait, ça n'existe pas.
Mais
quoi.
En vrai, le fonctionnement d'une indivision est déjà compliqué en soi.
On va pas
rentrer un investisseur particulier dans une situation conflictuelle non. avec des frères qui veulent vendre et puis des frères qui veulent pas vendre.
Quel conseil, pour finir, on donne peut-être à tel ou tel auditeur, auditrice qui nous entend matin et qui se dit tiens, peut-être c'est pour moi.
Si un de vos auditeurs est propriétaire de toute ou partie d'une nue propriété, parce qu'après il peut s'entendre avec ses co-nus propriétaires, et qu'il a besoin de liquidités pour financer un projet professionnel, un projet personnel, un investissement immobilier, je les incite à nous contacter et on est capable de faire une évaluation de leurs droits au prix du marché et de leur indiquer la faisabilité ou non de cette monétisation.
Eh bien voilà, ça s'appelle Hérite Immo. Igal Nathan, merci d'être passé dans Cœur de Patrimoine. On poursuit notre petit voyage ce mercredi.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on prend donc, comme promis, la direction de Dubaï. Enfin, on va pas vraiment voyager puisque c'est Dubaï qui est venu à nous dans le studio de Cœur de Patrimoine. Bonjour Yann Darwin.
Bonjour.
Merci
d'être
au rendez-vous et d'avoir fait le déplacement. Il fait un petit peu moins chaud, un petit peu moins beau ici.
Un petit peu, mais on a du soleil, donc bon. Je vous pardonne.
Vous êtes le cofondateur de Green Bull Group.
Oui.
Et groupe assez étendu et qui a notamment ses activités immobilières. Et on va justement se pencher sur l'investissement immobilier à Dubaï, parce que ça peut être une piste pour tel ou tel épargnant. D'abord, comment se porte aujourd'hui ce marché immobilier à Dubaï? Quelles sont les principales différences, s'il y en a, par exemple avec l'ambiance, les opportunités, la dynamique du marché européen, français en tout cas? On râle un peu sur l'immobilier en France. Qu'est-ce qu'il en est à Dubaï?
Bah écoutez, c'est un peu différent. On sort de 3 ans de hausse ininterrompue. Mois par mois, tous les mois, depuis plus de 36 mois, on a une augmentation. Et on est le premier mois, ce mois-ci, avec une légère baisse de moins 0,57. Donc autant dire qu'on se stabilise. Donc le marché se porte plutôt bien et plutôt mieux qu'en Europe. Mais en même temps, c'est une économie qui est plus jeune. Et on a énormément de migrations de millionnaires, beaucoup de nouvelles fortunes qui arrivent pour profiter. Comme vous l'avez dit, il y a le côté chaleur, vacances et influenceurs, mais il n'y a pas que ça à Dubaï. On est sur un hub aujourd'hui extrêmement important en financier, énormément de business, de l'optimisation fiscale aussi, bien sûr, on ne va pas se le cacher. Et donc, on attire aussi beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs.
Vous soulignez la dynamique du marché, mais en épargne, en finance, en placement, souvent, quand on dit « Oh là, ça a monté pendant 3 ans », enfin, ou pendant X années, hein, ce n'est pas pour stigmatiser les 3 ans, mais tout le monde un petit peu le réflexe de dire « Ah, est-ce que c'est pas un peu trop tard? Est-ce que c'est pas un peu une bulle? Est-ce que c'est encore le bon moment pour investir ?» Qu'est-ce que vous me dites si je vous dis « Est-ce que c'est encore le bon moment pour investir ?»
Bah, écoutez, moi, j'aime regarder les fondamentaux de marché. On a tout un certain nombre de rapports, et notamment UBS qui fait un rapport tous les ans sur l'immobilier autour du monde dans les plus grandes capitales, notamment Dubaï. Selon eux, on est loin de la bulle, on est en secteur faible, comparativement à plusieurs villes, notamment aux États-Unis, Miami par exemple, qui est en forte risque et chances de bulle. Après, j'aime aussi regarder qui sont les capitaux qui arrivent et comment est-ce qu'ils arrivent. Aujourd'hui, on a beaucoup d'institutionnels qui arrivent pour investir. On le voit nous-mêmes au sein de Green Bull et notamment Green Bull Properties, parce qu'on maîtrise aujourd'hui l'achat, la rénovation et la revente, et même une plateforme de financement participatif qui nous permet également de lever des fonds. Et on voit de plus en plus de capitaux qui arrivent, notamment institutionnels, qui sont des gens quand même qui font des études, qui ne font pas n'importe quoi, qui font des études de marché avant de venir.
Qu'est-ce qu'on peut dire du standing, de la qualité des biens? Parce que c'est vrai que pour beaucoup, c'est un peu un lieu magique, et assez fantasmagorique. Tous ces Émirats, toutes ces régions du Golfe, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire du standing, de la qualité des biens? Comment ça se positionne par rapport au grand nom que vous avez cité? Vous avez notamment parlé de la Floride, mais voilà. Et si on regarde même par rapport à Paris, peut-être à quelques grandes villes françaises, qui peuvent aussi intéresser parfois des ultra networks, des très très riches, comme on dit.
Ouais, c'est une ville qui est beaucoup plus jeune. C'est un pays qui est jeune, hein, lui-même. En lui-même, le pays est jeune et la ville est très jeune. La ville s'est construite très vite. Donc, ce qui se passe, c'est que on a très honnêtement, un manque de qualité. On est bien loin des paillettes, en fait, de Dubaï. Quand on voit Dubaï de loin ou quand on vient en vacances, il y a des endroits qui sont incroyables, et notamment les endroits les plus connus, notamment les hôtels, etc. Mais dans le résidentiel, on a construit très vite. On a construit très neuf. On a construit également pour des investisseurs à l'époque. Donc, tous les biens qui ont aujourd'hui 10 ans, 20 ans, 25 ans, finalement, arrivent sur leur tour de rénovation. Et c'est exactement notre métier. Nous, on fait du redéveloppement immobilier. C'est un métier qui n'existe pas trop en France. Et le redéveloppement consiste à prendre des biens et à les redévelopper complètement à l'échelle d'un quartier. En fait, on n'en prend pas un qui serait une rénovation simple, mais on prend plusieurs biens similaires dans le même quartier pour finalement redévelopper à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une rue ou plusieurs. Et ça, c'est un vrai métier qui est en demande sur Dubaï, puisque quand on prend des communautés comme sur lesquelles on opère, les maisons ont 20 ans et elles ont été construites rapidement et il y a besoin de les rénover.
Alors, rentrons un petit peu dans le détail, parce que chaque fois qu'on part, entre guillemets, sur une thématique d'investissement immobilière à l'étranger, il y a toujours une question qui se pose de la façon dont on opère, entre guillemets, parce que c'est vrai que nous, on est éduqué, biberonné au cadre français, avec l'agent immobilier, avec le notaire, avec beaucoup de garanties aussi, quelque chose de très encadré, de très formalisé. Comment ça se passe à Dubaï? On sait que dans beaucoup de destinations, c'est pas tout à fait la même chose, notamment du côté des notaires. Ça n'existe souvent peu ou pas, ce sont plutôt des avocats, etc. Comment ça se passe à Dubaï? Est-ce que il y a des précautions à prendre? Enfin voilà, dites-nous un petit peu le parcours de l'acquéreur à Dubaï.
Alors, c'est légèrement similaire à la France, mais il y a des différences. Alors, vous allez d'abord faire des visites, comme en France, avec le plus souvent un agent immobilier, comme en France, qui vous prendra une commission, comme en France.
Bon.
En général, les commissions se situent aux alentours de 2%. Donc, c'est souvent inférieur.
Là, vous n'avez pas dit comme en France.
C'est souvent inférieur à la France. Ensuite, quand vous allez vous mettre sous compromis, qu'on n'appellera pas un compromis là-bas, mais c'est un avant-contrat, comme en France, vous allez tout simplement décider du contrat, si jamais il y a des spécifications, des choses qui vont différer, ou alors des règles ou des demandes que vous allez faire à votre vendeur, typiquement faire des travaux, typiquement livrer le bien dans tel état, vraiment comme un avant-contrat, comme on ferait en France. Ensuite, vous allez passer devant un notaire qui sera un trustee là-bas, donc qui est vraiment un organe légal qui a le droit par le Dubai Land Département de gérer les ventes immobilières, un petit peu comme un avocat. D'accord. Et ensuite, très rapidement, vous allez avoir...
Mais il y a un cadastre, il y a...
Il y a un cadastre qui est finalement le Dubai Land Département, qui est finalement l'équivalent de la publicité foncière en France,
qui
répertorie et gère les transactions immobilières. Là-bas, c'est blockchainisé, c'est-à-dire que vous avez un QR code et tout est ancré dans la blockchain finalement. Donc, il n'y a pas de crypto derrière, mais il y a bien une blockchain qui sécurise tout ça. Et quand vous faites votre transfert... 20 minutes après, vous avez votre titre de propriété et vous pouvez le scanner, vous pouvez le télécharger. Donc les transferts sont globalement beaucoup plus rapides.
Mais c'est-à-dire qu'entre le moment où j'arrive en disant tiens, voilà, je veux acheter un appartement, une maison, on s'en fiche, à Dubaï, et le moment où je serai propriétaire, on sait qu'en France, on va dire, ça prend 3-4 mois.
Ouais, un bon 3 mois, ouais.
Ouais, à Dubaï, ça prend combien de temps ?
C'est beaucoup plus rapide parce que on a beaucoup moins de DPE, de choses à valider en amont, les prêts.
Il faut valider la clim quand même, non?
Il faut valider un certain nombre de choses. On a ce qu'on appelle des NOC, par exemple, qui sont finalement des autorisations de transférer parce qu'on va vérifier que vous ne devez rien. En tant que propriétaire vendeur, on va vérifier que vous avez bien payé vos charges, etc. Donc, il y a le temps de faire cette vérification-là et qu'on vous donne ce fameux NOC, Non Objection Certificate, un certificat de... qui ne vous empêche pas de vendre, hein, c'est littéralement ça, et vous allez pouvoir transférer. Honnêtement, les délais, s'il n'y a pas de prêt, on va parler de 1 à 3 semaines. Si on a un prêt bancaire, c'est un peu plus long, forcément le temps d'opérer le prêt, mais on est sur des délais d'1 à 2 mois.
Et en général, on est obligé de passer par une banque locale, ou est-ce que vous savez que les banques françaises suivent?
Non, les banques françaises ne suivent pas. D'accord. En tout cas, pas à ma connaissance. Peut-être rarement certaines banques privées, mais en tout cas, toutes les banques grand public ne suivront pas, parce qu'elles ne peuvent pas prendre de garantie, tout simplement.
D'accord.
Donc, c'est difficile pour une banque de prêter, sauf conditions extrêmes, sans prendre de garantie.
Bon. Et il y a des, à part ce certificat, mais qui concerne plutôt le vendeur, si j'ai tout bien compris, il y a des restrictions pour les investisseurs étrangers. Est-ce que il faut un visa? Est-ce qu'il faut avoir déjà une résidence? Enfin, il y a des conditions à remplir quand on est investisseur étranger et qu'on veut acheter de la pierre à Dubaï.
Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui est le visa investisseur. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de visa pour acheter, mais c'est plutôt acheter qui vous donnera un visa. Si je fais un petit peu l'équivalent en dollars, puisque le dirham des Émirats est adossé sur le dollar, donc souvent on parlera pas en euros, je ferai les conversions en dollars puisque il est stable par rapport au dirham, à partir d'un investissement légèrement supérieur à 200 000 dollars, vous aurez un visa de 2 ans. Avec un investissement légèrement supérieur à 500, 550 000 dollars, vous aurez un visa de 10 ans, qu'on appelle le Golden Visa, le visa investisseur. Donc c'est l'investissement qui vous donne le visa. Et en fait, ça va dans la mouvance de Dubaï d'attirer le public, d'attirer la richesse, d'attirer les investisseurs, d'attirer les entrepreneurs. Donc c'est assez simple d'acheter. Ce qui est plus difficile, c'est le financement. Si vous êtes sur place et que vous êtes résident, donc que vous avez un visa avant d'acheter, vous allez pouvoir emprunter à la banque un petit peu comme en France. Les règles du jeu sont un petit peu plus serrées. Il y a plus d'apports qu'en France parce que le pays fait attention et la ville fait attention à ne pas trop endetter les investisseurs parce D'accord. que c'est comme ça qu'on crée des bulles. Donc il y a des apports minimums de 20, 30, 40%, 50% parfois dans le neuf, tout à fait. Donc c'est beaucoup moins bullesque que ce qu'on le croit. Mais c'est possible d'emprunter si vous êtes résident et que vous travaillez sur Dubaï. Si vous êtes français et que vous voulez faire un investissement à distance, c'est possible. Il vous donnera un visa, mais emprunter sera très difficile sur Dubaï, voire impossible. Et donc il faudra acheter cash.
Aujourd'hui, le marché dont on a parlé au début, il concerne plutôt des propriétaires, c'est-à-dire des investisseurs qui viennent acheter pour eux-mêmes, ou c'est aussi ou surtout un marché locatif?
Alors, il y a un gros marché, ce qu'on appelle de end-user, donc de propriétaires à Dubaï, et notamment dans le luxe, c'est le marché sur lequel on opère nous. C'est vraiment, typiquement, il y a des cas qui m'ont choqué, comme une famille qui habitait à Londres, dans des quartiers très chers, Mayfair, qui vient de vendre son appartement pour 10 millions de livres et qui arrive à Dubaï, et pour la même somme, a beaucoup plus grand, une maison avec jardin, avec une vue, etc. Parce que les prix, on n'en a pas encore parlé, sont... comparativement à toutes les plus grandes capitales, Londres, Paris, on parlait de New York, Miami, etc., les prix sont beaucoup plus bas. Aujourd'hui, un bien bien placé dans le luxe à Dubaï, on est à 4 à 6 000 du mètre. Alors qu'à Paris, vous connaissez les prix. On est très largement au-dessus de 10 000. Et dans le luxe, on est plus à 20, 30, parfois encore plus. Donc, comparativement, les gens viennent, les gens achètent et on a un gros marché de end-user. Il y a également un gros marché d'investisseurs puisque forcément... avec beaucoup d'immigration, avec beaucoup de nouvelles personnes qui rentrent.
Il faut bien loger tout le monde.
Il faut loger tout le monde. Et on a un manque de logement actuellement.
Et ça, on a une idée du rendement? Enfin,
oui.
Il existe un rendement type, on va dire, à Dubaï?
Si on doit le comparer à la France, où le rendement type grande louche va être entre 2% pour les biens typiquement parisiens, etc., jusqu'à aller 4-5%, on va dire que ça va être le rendement type français. hors exception, très rentable, etc. À Dubaï, le rendement type va être entre 6 et 9 %.
Ah oui, quand même.
On se décale, vers le haut. Ouais.
Juste pour terminer, vous nous avez parlé de nécessité parfois de rénover.
Oui.
C'est facile de faire des travaux. Il y a des points d'attention là aussi à avoir parce que on imagine qu'on parle pas forcément la langue, qu'on connaît pas les us et coutumes. Enfin voilà, c'est compliqué de faire des travaux à Dubaï.
C'est très compliqué de faire des travaux à Dubaï. On a déployé presque 200 millions de dollars sur les deux dernières années en redéveloppement pur et donc en rénovation lourde. Hein, donc on va jusqu'aux fondations, jusqu'aux grosses œuvres. On a la barrière de la langue. On a la barrière de la compétence également. C'est-à-dire qu'en France, quand vous faites venir un artisan, comme quoi à Dubaï, tout n'est pas magique et rose, un artisan français sort de son spectre. Je m'explique, je prends un plombier, il faut faire un trou pour faire passer un tuyau, il va le faire. Ou alors, il faut éventuellement dévisser une ampoule pour faire quelque chose et la remettre, il va le faire. Non, à Dubaï, le plombier va s'arrêter à la plomberie pure et dure et il fera pas de placo, il fera pas un trou, il dévissera pas une ampoule.
Ah oui.
Donc, les équipes sont beaucoup plus importantes et ce gap un petit peu de compétences...
Faut un sacré conducteur de chantier. Quoi.
Exactement. Donc, on a des équipes qui sont beaucoup plus grosses, la main d'œuvre est moins chère. Donc, sur nos maisons, parfois, on a 40-50 personnes en simultané. Mais par contre, la conduite de chantier est beaucoup plus compliquée et la qualité est plus compliquée à obtenir.
Devant, qu'est-ce qu'il y a ? Encore de la hausse, encore de la bonne tenue ? C'est un investissement qu'on peut envisager pour le long terme ? Comment vous voyez les choses ?
Écoutez, je le pense. Quand je vois tout ce qui est mis en place actuellement par le gouvernement pour toujours attirer les gens, pour augmenter la satisfaction vraiment du client, hein, parce que là-bas, les immigrés sont des clients finalement. Hein. Il y a 90% d'expatriés à Dubaï, enfin d'immigrés, hein, quand on le voit de là-bas. Donc, on cherche à attirer les gens, on cherche à créer du business. Pour ça, on a un ministère du bonheur. On va jusqu'à des choses folles comme ça.
Ouais.
Et donc, je vois un avenir assez radieux. Quand on regarde les chiffres et les projections sur l'année 2025, on devrait avoir la plus grosse millionnaire migration de la dernière décennie qui devrait intervenir. Les capitaux arrivent, les institutionnels investissent de plus en plus. Donc je pense que pour quelques années au moins, on est tranquille. Après, rien n'est jamais figé dans le marbre dans l'investissement.
On va être très honnête, qui peut y penser ? Quel est, on va dire, le ticket moyen d'un investisseur français, épargnant français, entre guillemets, pour aller investir à Dubaï ? Est-ce que c'est quelque chose qui est réservé finalement à des épargnants un peu fortunés via des family office, via leur CGP, ou est-ce que tout à chacun qui nous écoute ce matin peut se dire tiens, pourquoi pas finalement aller investir à Dubaï?
On va avoir trois grands types de personnes. Les premiers, ça va être en effet les gens très riches qui cherchent à se diversifier.
Ouais, d'accord.
Et donc qui peuvent mettre des tickets facilement de 500 000, 1 million et plus, qui peuvent sans problème se diversifier sur cette économie-là. C'est peut-être pas la plus grosse partie de votre audience. Ensuite, on a les gens qui veulent s'expatrier, qui veulent aller à Dubaï. Là, on l'a vu, avec des tickets beaucoup plus faibles, 200, 250 000, 300 000 dollars, on peut obtenir un visa, on peut s'installer, on peut être légal sur le pays, on peut travailler, on peut voire même refinancer le bien qu'on a acheté un petit peu plus tôt auprès d'une banque. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, on a les investisseurs que je vais appeler petits tickets, et c'est notamment ce qu'on fait sur notre plateforme de financement participatif myclubdeal.com, où à partir de 1 000 euros, vous pouvez investir pas sur un bien complet, mais sur une fraction, bien sûr, du bien. Mais ça permet aussi de s'exposer à cette économie, de s'exposer notamment en dollars, même si on est exposé en dirham, mais je vous l'ai dit, il est adossé au dollar, donc on s'expose à une autre monnaie. Et c'est intéressant également pour le petit porteur qui veut mettre un petit peu un pied, un premier orteil dans l'économie au Middle East.
Merci beaucoup, Yann.
Merci à vous.
Yann Darwin, donc, et Green Bull Group qui nous proposait ce petit voyage, cette excursion du côté de Dubaï. Merci d'être passé nous voir. Nous, on poursuit notre voyage dans Cœur de Patrimoine.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et après cette longue phase consacrée à l'intelligence artificielle, comme promis, c'est la retraite qui va occuper notre temps ce matin. On accueille Sonia Hemminger. Bonjour, Sonia.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous pour Lily Kerr et Charles-Henri Chenu. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Vous êtes avocat à Paris au cabinet Chenu, Oliveira et Santiago, spécialisé dans ces questions internationales, puisqu'on va faire rimer retraite avec international. D'abord, remettons un peu les choses en place. Je le disais en introduction tout à l'heure, on va pas présenter la énième nouvelle ou future réforme, mais il va nous falloir quand même un petit rappel de barème, Sonia, pour savoir où on en est en termes de retraite après cette réforme 2023.
Alors, un chiffre à retenir, 172 trimestres, 43 ans de cotisation, c'est depuis la réforme des retraites ce qu'il faudra cotiser pour pouvoir prétendre à une retraite à partir de 64 ans maintenant. Taux plein, 67 ans, ça ne change pas. Ce qui ne change pas non plus, c'est 25 années qu'il faudra cotiser. On va prendre les 25 meilleures années. On va prendre 50% de ces 25 meilleures années pour avoir sa retraite de base, qu'on appelle sécurité sociale.
D'accord.
Après, on a toujours le système des surcotes. Si on travaille plus que la durée requise, il y a 1,25% de surcote par trimestre. Pareil, en déduction, si on
ne travaille pas assez,
voilà, suffisamment. Donc ça ne change pas. Également, les retraites complémentaires, hein, en plus de la retraite de la sécurité sociale. Donc là, c'est une retraite par points qui vous permet de vous cotiser. Vous avez un nombre de points acquis et chaque année, le point est revalorisé. Vous le transformez en euros et vous saurez exactement combien vous allez percevoir de retraite.
Ça, c'est notre système. Voilà. Et à l'international, Charles-Henri Chenu, comment est-ce qu'on peut parler de retraite ?
Alors déjà, ça touche une vraie communauté, puisque la diaspora française est à peu près comprise entre 3 millions et 3 millions et demi de compatriotes hors hexagone. Ils sont aussi perdus qu'ici, tout à fait légitimement. Et parce qu'ils sont à l'étranger, ils se posent la question de la retraite en France, de la retraite dans leur pays de résidence, mais aussi dans un autre pays dans lequel ils ont pu travailler. Donc, le premier réflexe est de savoir quelle est la législation applicable dans son pays de résidence, qui n'est plus, a priori, la France. L'âge de la retraite est très différent. Par exemple, en Europe, ça peut être 65 ans en Espagne, c'est 66 ans au Portugal, 67 ans en Italie. Donc, déjà, s'enquérir de l'année de départ, ça, c'est très important. Et puis, vous avez des législations très spécifiques qui vous imposent aussi une durée minimum de travail dans le pays en question. Ce qui n'est pas du tout le cas de la France. La France, il n'y a pas un minimum de prérequis. On n'a pas besoin de travailler un minimum en France pour prétendre à la retraite. Dans certains pays, c'est le cas. L'Allemagne, c'est par exemple 5 ans minimum. Sinon, vous n'avez pas le droit à la retraite. Le Royaume-Uni, c'est 10 ans. Et moi qui travaille beaucoup avec l'Amérique latine et le Brésil notamment, c'est 15 années de travail à minima sur place. Donc, le premier réflexe, c'est de s'enquérir de la législation applicable dans votre pays de résidence.
Bon, alors effectivement, il faut se renseigner. Bon, on a donc une vision un peu générale de tout ça. Mais quand on bouge, Sonia, si on part vivre, travailler à l'étranger, on va dépendre de plein de statuts, non ?
Oui, tout à fait. Alors, il y a deux statuts principaux. Donc, le statut de travailleur détaché. Donc là, un travailleur détaché, c'est l'entreprise qui envoie son salarié à l'étranger. Il y a aucune différence par rapport au système de retraite française.
D'accord, c'est-à-dire donc que là, c'est on comme reste si... dans le cadre que vous avez rappelé.
Voilà, comme s'il avait jamais quitté le territoire français.
D'accord.
Principalement, c'est quand même plutôt en expatriation qu'on envoie les travailleurs à l'étranger. Et là, ça va être souvent du contrat local. Donc, le contrat d'expatrié, là, on va regarder les conventions qu'il va y avoir avec la France et le pays dans lequel on va être expatrié pour savoir à quelle sauce on va être mangé au niveau de la retraite.
Donc, c'est un peu comme pour la fiscalité. C'est-à-dire qu'il y a des conventions. Quand on décide, Charles-Henri, d'aller à tel ou tel endroit, entre guillemets, on ouvre le bouquin et on regarde s'il y a une convention, ce qu'elle raconte, quelles sont les différences, on a le choix, enfin comment on fait
Exactement, donc ça on y pense assez peu. La France a signé des conventions bilatérales avec d'autres pays, une trentaine de pays partenaires, des conventions bilatérales de sécurité sociale, parce qu'on parle souvent de la convention fiscale bilatérale ou des conventions fiscales, mais il y a aussi des conventions de sécurité sociale qui nous intéressent au premier chef ici. Donc une trentaine de pays, ça embrasse à peu près l'ensemble des régions du monde, le Maroc, le Canada, le Brésil, on en parlait. Donc, se renseigner sur ces conventions. Alors, ça sert à quoi, en fait, une convention ? C'est extrêmement utile parce que lorsque la France a signé une convention avec un autre pays, vous pouvez, pour prétendre à votre retraite française et ces fameux trimestres dont parlait Sonia, vous prenez les années travaillées en France et vous allez agréger aussi les années travaillées à l'étranger. Et cela, on n'y pense pas du tout. Donc, ça vous permet, finalement, avec ces années françaises, de rajouter quelques années marocaines,
américaine ou canadienne et d'arriver au fameux 172 trimestres. Donc c'est extrêmement profitable. Mais c'est profitable aussi dans l'autre pays qui a signé cette convention. C'est-à-dire que dans l'autre pays, vous allez avoir les années travaillées, par exemple au Canada, vous en avez pas assez pour avoir un taux plein canadien, et donc vous allez additionner les années françaises aux années canadiennes.
Et
donc c'est extrêmement utile.
On fait son marché, quoi. C'est-à-dire que...
on récupère, on fait une reconstitution de carrière internationale, et on récupère l'ensemble de ces années un peu partout, glanées un peu partout, pour prétendre dans chaque pays à un taux plein de retraite.
Bon, mais s'il n'y a pas de convention
Alors, s'il y a pas de convention, c'est un vrai sujet. Vous avez cotisé, vous n'avez pas cotisé dans le pays en question, donc ça ne joue pas pour la France. Et vous pouvez vous rattraper quand même. C'est pour ça qu'il faut être assez fin dans ces cotisations lorsque vous êtes à l'étranger. Vous pouvez vous rattraper lorsque vous cotisez à la Caisse des Français de l'étranger dans l'autre pays. Caisse des Français de l'étranger, non pas santé, hein, mais sécurité sociale.
D'accord.
Et à ce moment-là, ces années où dans ce pays il n'y a pas de convention bilatérale, donc si vous êtes salarié dans ce pays, vous ne pourrez pas les additionner en France. Vous cotisez à la CFE, à cette Caisse des Français de l'étranger, dans ce pays, et ces années de cotisation CFE à l'étranger viendront s'agréger en France.
Alors pour vous donner un exemple au niveau coût de la Caisse des Français de l'étranger, c'est à peu près 2000 euros par trimestre de cotisation pour pouvoir récupérer ces trimestres. Alors on a un exemple assez concret parce qu'on travaille pas mal ensemble sur ces sujets, sur des personnes qui cotiseraient à la CFE ou pas. C'est pas toujours si intéressant que ça. On a eu un cas là récemment. Une personne qui continue à cotiser à la CFE en se disant bah si ça sert à quelque chose, alors qu'il y avait des conventions entre les deux pays. Donc finalement il cotisait à perte ou pratiquement à perte parce que ça lui donnait rien du tout. Donc ça se
calcule vraiment. Ça veut dire qu'en fait ça s'improvise pas. C'est-à-dire qu'au moment où on décide de partir, faut pas forcément non plus faire confiance entre guillemets 100% à sa boîte et autres. Faut se renseigner, faut aller de l'avant, faut.
C'est-à-dire que le problème, c'est que votre boîte, quand vous êtes un vrai expatrié et qu'elle vous paye votre expatriation, c'est ceinture et bretelles. Elle va dire, moi, je vous cotise dans l'autre pays, la CFE, sauf que vous êtes salarié, par exemple, au Brésil, vous êtes salarié brésilien, vous allez prendre ces années de cotisation de salariat brésilienne, et ça sert à rien de cotiser en plus à la CFE. Ça fait doublon, et ça s'additionne pas. Donc, en fait, vous cotisez à perte. Nous, on a sur le dossier que tu évoquais, permis sur 5-6 ans, à supprimer des cotisations à perte à hauteur de 100 000 euros.
Ah oui.
Donc c'est un gain non négligeable.
Pas tout à fait négligeable. Ouais. Bon, question qui fâche, mais en France, il y a toujours cette question-là quand on parle de gestion de patrimoine, la fiscalité. Comment est-ce qu'on fiscalise des trimestres touchés, cotisés, déduits, agrégés ou pas à l'étranger ?
Alors, il y a déjà la matraque française. Vous impose vos retraites. Maintenant, si vous êtes un Français de l'étranger et que vous habitez hors hexagone, vous allez donc déclarer ce revenu français de retraite, vous allez le déclarer lors de votre déclaration de revenus à l'étranger. Et la fiscalité étrangère va vous imposer. Donc vous allez, a priori, avoir une double imposition. Une retenue à la source française sur votre retraite et puis une taxation locale.
Quand donc là, on change de convention, on lâche la convention sociale et on revient sur la convention fiscale.
Et donc, normalement, il y a d'abord une convention fiscale et après, éventuellement, une convention sociale. Il y a rarement une convention sociale toute seule et pas une convention fiscale.
D'accord.
Donc là, on joue le jeu de la convention fiscale, du crédit d'impôt, de la non-double imposition. Et donc, vous n'allez pas être imposé deux fois sur le même revenu de retraite. C'est souvent le cas quand même. Donc, l'astuce, c'est d'aller voir l'organisme payeur français en lui disant, écoutez, non, moi, je suis sous couvert d'une convention fiscale bilatérale. Je vous demande de ne plus payer parce que je paierai l'impôt sur ma retraite française dans mon pays de résidence.
J'ai déjà payé au Maroc, au Canada, au Portugal.
Et ça fonctionne.
Bon, qu'est-ce qu'on se dit en conclusion? Encore une fois, c'est la préparation, c'est la recherche.
Avant de partir, surtout vérifier si ce pays a déjà une convention ou pas. Donc, s'il n'y en a pas, il y a quand même pas mal de choses à mettre en place. Ensuite, bien conserver toujours ces documents quand on va travailler à l'étranger. Et puis, l'expérience internationale, c'est exaltant, mais il ne faut pas non plus partir la fleur au fusil et sans aucune organisation. Donc, bien se renseigner et consulter des spécialistes, bien sûr, pour vous aider.
Merci à tous les deux, Sonia Emlinger, donc pour Lily Kerr, et Charles-Henri Chenu, donc pour le cabinet.